RMC.
PLM et toutes les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh non, mais du bordel de merde, c'est bon.
Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et François Manardou et vous également sur le hashtag RMC Live. Alexandre, grande fidèle de l'After, qui nous dit tu auras fini ton émission par Kinavo, Nicolas. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit, parce que ça fait dire au revoir, l'a vérifié notre ami Alexandre. Pour l'un vous dit,
alors. Merci Alexandre.
La défaite du Paris Saint-Germain vous rend fou, hein, les supporters du PSG sur le hashtag RMC Live également. Très inspiré d'ailleurs pour certains aussi. Je vous rappelle justement les résultats de cette 16e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain donc qui s'est incliné 2-1 à Strasbourg. Je vais retrouver les résultats ou pas là? Attends. Ouais, regarde, ils sont là, ils apparaissent. Victoire de Guingamp à 3-1-0, victoire de Monaco 1-0 face à Angers. Rennes s'est imposé 2-0 face à Amiens, victoire de Lille 1-0 contre Toulouse. Metz s'est incliné à Nice 3-1. Demain à 15h, il y aura Saint-Étienne-Nantes. Il y aura Caen-Lyon demain à 17h et à 21h. Match à suivre à partir de 20h sur RMC. Montpellier face à l'Olympique de Marseille. Revenons sur la victoire de Nice face à Metz 3-1. Voilà les buteurs de ce match. On a eu du Player, on a eu du Roux, Balotelli également et Saint-Maximin. Ils ont eu un peu de réussite quand même, hein, les Niçois.
Beaucoup de réussite.
Alors, même question d'ailleurs beaucoup qu'on pouvait se faire réussite. Auparavant.
C'est une victoire à la Pyrrhus. Hein. C'est une victoire qui cache
vraiment dans la merde,
beaucoup de défauts, beaucoup d'approximations. Je pense qu'il faut pas mal en exonérer Lucien Favre. Parce que tu vois cette équipe qui, techniquement, physiquement, est défaillante. Un nombre incalculable de mauvais choix. Alors, franchement, mon sentiment, s'il n'y avait pas eu cette équipe Messine qui est de loin le cancre de la classe Ligue 1, je ne pense pas qu'il prenait 3 points ce soir. Alors c'est du foot fiction certes, mais vraiment j'ai trouvé que dans les transmissions, dans l'application, même au niveau des duels, presque une crainte chez certains joueurs, notamment les deux centraux, Marlon et Le Marchand, et principalement le Brésilien. Metz aurait pu avoir un meilleur résultat avec un peu plus de réussite et un peu plus de qualité.
On reconnaît plus cette équipe de Nice.
En fait. Vraiment.
Ni dans le jeu, ni dans l'envie, ni dans les occasions. Et on sent qu'ils ne jouent plus ensemble.
Mais pourtant, ils sont sur une belle série, hein, les Niçois. Ils comptent qu'une défaite sur les 6 derniers matchs. Ils ont 4 victoires. Bah si, je suis désolé, ça va mieux.
Il y a eu une rouste à domicile.
Non. Oui, contre Lyon, mais
5-0.
Sur les 6 derniers matchs, c'est le seul final.
C'est droit. La perte de balle à 30 mètres du but.
C'est plus un groupe. On sent, je suis pas sûr que même le coach arrive à vraiment tenir tout le monde ce qu'il faisait.
Non, vous savez quoi, les mecs, messieurs, au lieu de fantasmer, on va demander à quelqu'un qui fait partie de ce groupe, justement. Pierre Lesmélou est en direct avec nous dans l'After. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir
Pierre.
Merci d'être avec nous, Pierre. Bravo pour cette victoire à 3-1 face au FCMS. Alors, t'écoutais peut-être là les analyses d'Ali Benarbia et François Malardo. Alors, eux ont l'impression que le groupe est pas soudé, que ça va moins bien cette saison.
Moi, j'ai dit footballistiquement sur le terrain, je vois plus la cohésion que je voyais de cette équipe de Nice.
Alors, Pierre, on te laisse répondre à ça.
Moi déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est soudé.
Ça,
je peux pas trop comparer par rapport à l'année dernière, puisque moi j'y étais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 2-3 matchs, c'est bien mieux. On a retrouvé quand même cette cohésion, même si tout n'est pas parfait. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte. On a malheureusement ce souci-là que dès qu'on marque des buts, on se met à reculer. Mais je pense que c'est mieux qu'auparavant déjà.
François Malardo a une question pour toi. Pierre Lesmélou qui est en direct avec nous dans
l'after. Non, moi je rejoignais pas Ali sur pense que et on le ressent, le groupe est combatif, a envie. En revanche, quand vous entrez dans la compétition, quand vous abordez les matchs, je trouve que il y a un déchet technique, que vous voulez souvent en faire trop parce que vous avez une assise dans le jeu qui est une assise technique. C'est une des équipes, sinon l'équipe qui se fait le plus de passes en Europa League, ce qui signifie qu'il y a une intention de jeu, mais que cette intention-là, vous n'arrivez pas à la traduire. Il y a un déchet, il y a un manque de concentration, un manque d'application, et que défensivement, ce manque de concentration, on le voit souvent. Vous marquez un but, vous en encaissez un dans les 5-10 minutes qui suivent, C'est en ce sens qu'on ne reconnaît pas. Alors, t'es mal placé parce que t'étais pas dans cet effectif-là, mais tu les as vus jouer, ces Niçois. Tu les as vus venir gagner à Dijon. Tu les as vus vous battre aussi à l'Allianz Riviera. C'est en ce sens qu'on ne connaît, on reconnaît pas l'OGC Nice de la saison passée.
Oui, non, mais c'est sûr que là, vous avez raison. Je peux pas vous, contredire. C'est vrai qu'on a, ce souci-là et il va falloir qu'on travaille parce que, ouais, on marque, on arrive à marquer, mais souvent on se met à reculer. Comment dire, sans trop le vouloir. Après, c'est sûr que il y a des fois où on fait quand même pas mal d'erreurs bêtes où, oui, certes, on devrait jouer plus simple. C'est sûr que c'est des détails à régler. Une fois que tout ça sera réglé, je pense que, ça sera beaucoup mieux pour notre jeu et on sera peut-être plus efficace.
Nice s'est imposé 3-1 ce soir face à Metz. Pierre Lesmélo est en direct avec nous dans l'after. Pierre, Nice est 12e au classement. Il n'y a que 4 points d'avance sur Toulouse qui est barragiste actuellement. Est-ce que vous avez un peu peur quand même, les Niçois, là, quand, parce que quand vous regardez en bas, c'est pas très loin finalement la zone rouge, hein.
Bah forcément, cette situation, elle nous plaît pas. Là, on avait pour objectif de prendre les 6 points cette semaine, on l'a fait. Donc ouais, là, on veut regarder de l'avant et on veut engranger le maximum de points avant la trêve et pour pouvoir faire une bonne deuxième partie de saison.
Pierre, en revanche, là, tu étais acteur. Comment tu peux nous expliquer qu'il y a eu une phase où vous en mettez 5 à l'extérieur contre Zulte Waregem, vous en mettez 4 à domicile contre Monaco, vous allez gagner à Rennes, et on a pensé, et moi le premier, tiens, ils ont retrouvé le même liant dans le jeu, la même volonté avec la même réussite, forcément ils l'ont provoqué, et puis, patatras, ça redevient moyen, voire médiocre, avec des choses qui sont de l'ordre vraiment de la technique et de la concentration. Qu'est-ce qui s'est passé?
Si on le savait, je pense qu'on l'aurait déjà réglé, mais c'est sûr qu'on a perdu trop de matchs ou des points vraiment bêtes sur des erreurs, sur tout ce que vous voulez, et c'est sûr qu'il y avait des gros contrastes par rapport, comme vous l'avez dit, au match qu'on a fait, qu'on a gagné. Mais c'est pour ça qu'on bosse dans ce sens-là. Et là, comme je l'ai dit, ces 6 points nous font le plus grand bien, et maintenant, on va essayer de regarder vers l'avant et essayer de régler ces problèmes petit à petit.
Le Niçois, Pierre Lesmélo est avec nous en direct dans l'after. Ali Benarbia, une question pour toi, Pierre.
Oui, Pierre, quand je parlais de cohésion, je parlais de fluidité du jeu. Au début, quand tu as commencé tes premiers matchs avec Nice, toi-même, tu étais emporté par cette fluidité de jeu qui était tellement agréable que tu t'emportais même offensivement à te retrouver souvent devant le but. Et là, je ne la retrouve plus du tout, cette fluidité. Je n'ai pas 4-5... passe d'affilée à casser les lignes, à changer de gauche à droite, ce qui faisait la force de Nice. C'est pour ça que j'ai dit, je ne la retrouve pas, cette cohésion, et c'est pour ça que vous avez des problèmes avec le ballon et sans le ballon.
Non, mais c'est pas faux. C'est vrai qu'on est peut-être plus frileux qu'au début, on joue plus vers l'arrière, alors que c'est la force de Nice, c'est la force de notre jeu, c'est justement de casser des lignes par des passes. Et c'est vrai qu'on a du mal à le retrouver, et pourtant... On sait que c'est notre jeu et nous, on est une équipe qui veut le ballon et qui joue avec le ballon, mais c'est vrai qu'on casse moins de lignes qu'auparavant et c'est là où on essaie de bosser justement pour améliorer ça.
Pierre, merci d'avoir été avec nous. Encore merci, bravo Pierre. Pour cette victoire, Pierre.
Merci, bonne soirée, merci pour ta dispo,
Pierre. Voilà, Pierre Lesmélo qui est en direct avec nous dans l'after. Pourquoi? Parce que Nice s'est imposé 3-1 face à Metz ce soir. Rennes s'est imposé 2-0 face à Amiens, on l'a évoqué tout à l'heure. Amari Traoré est en direct avec nous, le Rennais. Bonsoir Amari.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bravo pour cette victoire. À toi aussi, Amari, et au Stade Rennais. Victoire 2-0 face à Amiens. Alors, tout à l'heure, on était en train de lire les déclarations de Sabri Lamouchi, alors qui, en conférence de presse, a rendu hommage au travail fait par son prédécesseur, Christian Gourcuff, en disant, voilà, moi, je suis arrivé, c'est lui qui avait choisi les joueurs. Bravo à son travail également. La transition, elle a été facile entre Christian Gourcuff et Sabri Lamouchi?
Ouais, ça a été facile. Il a continué à, on va dire, ça a été une continuité parce que le coach de Gourcuff avait mis quelque chose en place. Et quand Sabri Lamouchi n'a rien changé, donc ça, on continue le travail et on essaye de rester sur cette lancée qu'on est en train de faire. Donc c'est bien pour nous et c'est bien pour le coach aussi.
Alors, c'est vrai que Christian Gourcuff est parti à un moment où la dynamique était plutôt bonne déjà du côté du Stade Rennais. Vous, joueur, vous l'avez pris comment ce départ? Vous l'avez compris d'ailleurs?
Bah, franchement, je n'aimerais pas trop parler sur ce sujet parce que ça appartient aux dirigeants du club. Et nous, on est joueurs, voilà, on est professionnels, on reste professionnels quand il y a un changement ou pas. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, le changement, je ne sais pas si on voit vraiment qu'il y a eu un changement puisque les joueurs et les 11 rentrants sont les mêmes et ça se passe bien comme ça s'est passé avec le coach de l'équipe.
Amari Traoré, le René Tavernier, qui est en
Amari, bonsoir. Est-ce que,
vas-y,
est-ce que
ça la parole, toi.
Amari, bonsoir.
J'allais t'introduire. François Malardon, une question pour toi, Amari. Voilà.
Amari, bonsoir. Est-ce que Sabri a apporté quand même quelque chose de plus, alors, par rapport à la
de
base
différent.
De différent ou de plus par rapport à la base qu'avait déjà construite Christian Gourcuff?
Bon, il y a juste un changement parce que le coach Sabri Lamoussi me demande de jouer plus direct, d'aller plus vite vers l'avant, et avec Christian, c'était plus la possession, faire tourner l'adversaire et après aller directement vers là-bas. Donc c'est juste ce petit truc qui change, mais bon, l'équipe reste la même et ça se passe bien. Et on a eu un début de saison un peu difficile. Et là, tout se passe bien. Voilà, il faut rester humble et travailler. Je pense qu'on pourra faire quelque chose cette année.
Alors, avec cette victoire, Amari, Rennes est sixième au classement. Vous êtes finalement aux portes finalement des places européennes. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y mettez arrivé? Est-ce que c'est un objectif, l'Europe, pour Rennes cette saison?
Non, franchement, on prend match par match. Et il y a un mois, personne ne nous voyait là. Donc, déjà, ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Il faut rester humble. Il ne faut pas s'emballer, il faut continuer à travailler. Et je pense qu'avec le travail qu'on est en train de faire, on pourra aboutir à quelque chose, c'est à la fin de la saison. Pour l'instant, on va prendre match par match. S'il y a l'opportunité d'aller en Europe, voilà, on va le saisir. Pour l'instant, on ne va pas parler de l'Europe parce qu'il y a rien à faire encore.
Ali Benarbia, une question pour toi. Amari Traoré est en direct avec nous dans l'after.
Oui, bonsoir Amari. Je pense qu'il y a eu un changement. Il n'y a pas eu de changement de joueur. Donc vous avez le même effectif, les mêmes joueurs. Sabri, gentiment et poliment, dit qu'il a gardé les mêmes joueurs, la continuité de travail de Gourcuff. Mais j'ai vu cette équipe, il y a un changement, pas parce que aussi vous avez eu des bons résultats, mais aussi parce que il vous demande des choses simples, vous allez directement à ce qu'on vous demande. On prend l'exemple un petit peu de l'effectif de Bielsa, où les joueurs étaient complètement perdus tellement ils leur demandaient des choses. Et là, que je pense, quand on vous dit de jouer directement vers l'avant dès que vous avez le ballon, au lieu de chercher la position, vous réfléchissez moins, et là ça va beaucoup plus dans la façon de jouer. Pour moi, un club breton comme Rennes lui va beaucoup mieux, surtout à domicile, de jouer de l'avant et de mettre la pression à l'adversaire. La preuve, année, c'est que ça faisait longtemps que Rennes ne s'était pas créé autant d'occasions à domicile et n'avait pas dominé son sujet, surtout une équipe d'Amiens qui était en pleine forme et qui gagnait les matchs.
Ouais, je suis d'accord avec vous, parce qu'on a joué contre une équipe très regroupée derrière, qui encaisse moins de buts. C'est vrai qu'en jouant vite vers l'avant, on s'est procuré beaucoup d'occasions. En plus, Johan, je ne veux pas vous parler de Johan parce que c'est un joueur fantastique. Il était très bien entre les lignes. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est comme les matchs précédents, c'était bien. Et quand on demande des choses simples, comme vous avez dit, c'est bien. Et ce Paris Saint-Germain est efficace et bénéfique pour tout le club.
Amari, alors le prochain match du Stade Rennais, ce sera à Metz. Puis il y aura deux matchs à domicile, un match en Coupe de la Ligue face à Marseille et un autre match à domicile en championnat face au Paris Saint-Germain.
Oh, c'est top.
Ça y est, tu commences à cocher les dates sur le calendrier. Il y a deux belles affiches à venir là quand même.
Exactement. Bon, avant, c'est des belles affiches. Le match le plus compliqué, ça sera à Metz parce que cette équipe est dans les doutes et ils n'ont jamais gagné à domicile. Et je pense que ça va être le match le plus compliqué pour nous. Après, Marseille, c'est en Coupe de la Ligue. Le PSG, c'est du bonus. Et je pense qu'il faut rester, voilà, faut travailler, faut prendre match par match. Et aller gagner à Metz et après voilà se concentrer sur Marseille en Coupe de la Ligue et PSG c'est du bonus là. Et j'espère que voilà on va faire quelque chose de bien pendant ces trois matchs.
Amari, tu sais que t'as fait quelque chose de mal hein, ces derniers temps. T'as mis Romain Danzé, la légende du Stade Rennais, sur le banc, c'est pas bien.
Non, c'est pas moi, je l'ai mis sur le banc, c'est le coach qui fait le choix. Et quand le coach fait le choix, voilà, moi j'ai
fait le numéro. Mais si t'étais mauvais, il pourrait jouer, tu vois. Sois nul un peu, comme ça tu lui laisses la place. Tu vois,
surtout, t'as intérêt de pas être moyen, oui, plutôt.
On est tous compétitifs quand tu es sur le terrain, tu peux dire les meilleurs des soi-même. Donc, du coup, voilà, j'essaie de faire le maximum. La courage, c'est l'SN dans ces clubs. Tout se passe bien. Voilà, si c'est Romain qui joue, bah, je sais qu'il donne la lumière de lui-même. Et si c'est moi, je ferai le pareil. Donc ouais. c'est bien pour nous parce qu'on travaille dans la sérénité et voilà la conférence elle est bien.
Merci en tout cas Amari d'avoir
merci
été avec
Amari.
Nous. Encore
bonne
bravo
soirée,
pour
merci
cette victoire. Voilà, merci pour ta
merci.
Franchise. À bientôt
soirée.
Amari.
Discours
voilà.
Direct hein, lui aussi comme son comme le jeu de son club.
Ouais.
Discours direct comme
ouais,
le jeu de son
ouais,
club.
Complètement. Voilà Amari Traoré, le Stade Rennais qui s'est imposé ce soir 2-0 face à Amiens. Ouais. Amiens qui était sur une super bonne dynamique en plus ces derniers temps. Amiens qui était sur 8 matchs sans défaite. Hein.
Ouais, 6 victoires et 2 nuls, je crois.
Ouais, ouais. Surtout, et beaucoup de victoires.
Sur ouais, ouais, c'est
6 victoires
ouais,
et 2 nuls.
Ouais,
je crois.
Ouais, c'est ça.
On a Guillaume, supporter du Stade Rennais, qui est avec nous. Salut Guillaume.
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut Guillaume. Bonsoir, Guillaume.
Ça va bien là, Guillaume, là. 6ème au classement. Comme disait Amari Traoré, qui était en direct avec nous à l'instant, il y a quelques semaines, personne n'aurait imaginé ça. Hein.
Non, bah, j'avais appelé il y a 3-4 semaines après les victoires sous Gourcuff, entre la victoire en Coupe de la Ligue et la victoire en championnat. Et j'avais dit à l'automne à l'époque que je pense que malgré les premières victoires de Gourcuff, je pense que ça allait bouger au niveau de l'organigramme Saint-Drennais. Par contre, sincèrement, je pense que personne n'aurait pensé que Sabrina Mouchy prenne les rênes du club. Et j'ai écouté tout à l'heure l'interview là justement d'Amari, et c'est ce que je voulais dire un petit peu à l'antenne, c'est que la verticalité, c'est depuis le début de la Mouchy, j'ai l'impression que les joueurs, ils jouent vraiment vers l'avant, à fond. J'ai vu un petit peu, enfin j'ai même vu entièrement le match contre Nantes, hein. Je suis pas sur Rennes, mais je suis bien sûr mon équipe de loin, j'ai vu Rennes-Nantes il y a 15 jours, et les échanges entre Cazeri et Bourigo, enfin c'est une touche, deux touches vers l'avant, on va vraiment vers le but devant. Et j'ai le sentiment que l'équipe de Gourcuff, elle jouait vraiment trop de manière stéréotypée, en vraiment, voilà, un schéma de jeu discipliné, alors que là, les mecs, ils se posent des questions, ils vont vers le but devant, et puis on a des occasions, on marque des buts, et on enchaîne les victoires, quoi.
Oui, on appelle ça jouer à contresens. Les joueurs jouent pas le jeu qu'ils voudraient réellement. Et avec ce public rennais à domicile, porté par l'avant, à l'image du public de Strasbourg, ça leur va mieux le jeu direct. Et quand tu as des joueurs pour pouvoir avoir la possession, c'est très bien. Ce qui n'est pas le cas de cette équipe, de cet effectif de Rennes, où ils ont des joueurs beaucoup plus de rupture, de garder le ballon et hop, d'exploser, de se projeter vers l'avant. Donc, votre flèche Cazeri vous fait énormément. Et le fait que peut-être on retrouve à Johan Gourcuff à la passe, ça va permettre beaucoup plus à Rennes et d'être agressif et méchant. Le but.
La cité, mais Bourigeaud aussi.
Ouais, il fait du bien.
Un joueur qui fait très bon joueur.
Moi, ça m'aide. Franchement, Bourigeaud, au milieu de terrain, qui joue sur un côté droit, qui joue un petit peu en sorte de.
Qui tire très bien.
Il passe un petit peu à Rongier de Nantes aussi. Hein. C'est un peu dans le même style de joueur. Deux très bons joueurs.
Ça, c'est des mecs super. Et j'espère que quand on va récupérer Sar devant, la flèche qui va devant, enfin, tu mets Gazeri sur un côté, tu mets Bourigeaud de côté, tu mets Gourcuff en 10. Enfin, tu prends le ballon au milieu de terrain, tu récupères et tu fonces devant et on aura deux cases du but tous les week-ends.
Exactement.
Quoi. Enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a des équipes portées vers l'avant.
Guillaume, cela dit, je pense que sur le mois de novembre, vous avez le meilleur joueur de Ligue 1.
J'en parlais avec un copain ce jour, il est prêté malheureusement, mais si on pouvait l'acheter, si on avait pu l'acheter, moi je prends son maillot quand il veut, hein. Je lui dis tu me signes l'autographe sur le maillot, enfin c'est un joueur extraordinaire ce mec là, je le connaissais un petit peu bien sûr quand on le suivait quand je suis pas français, mais il se bat tout le temps, il court partout, il fait des courses contre Nantes.
Mais il est bon techniquement, surtout
non, c'est vrai que
techniquement, sa vitesse, balle au pied, ses enchaînements.
Le top de Cazeri pour qu'il passe un cap en fait. Il a la vitesse, il a la technique, il frappe bien les coups francs et les corners, ce qui n'est pas évident pour un attaquant de faire
tout ça. Il
est à droite
devant le but.
En même temps, il frappe les pénaltys. Ce qui lui manque, c'est juste de rester concentré dans son football, qu'il évite de parler à l'arbitre et à l'adversaire. Et là, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, mais ça dépend que de lui.
Guillaume ?
Oui ?
Merci de nous avoir appelé, mon gars. Alors, ne raccroche pas, on a un cadeau pour toi, Guillaume. Une réplique,
un cadeau pour moi.
Une réplique 3D de stade, mon gars. Voilà. Et on va t'offrir la Beaujoire du coup parce qu'on n'a pas le droit à Zone Park. Voilà,
ça c'est
Jérôme Thomas qui a l'idée, c'est pas mal pour un Rennais en plus. Vas-y Guillaume.
J'ai mal entendu, vous disiez pardon.
On veut t'offrir un cadeau, un puzzle 3D d'un stade. Et on va t'offrir la Beaujoire, tu vois.
Tu prends ce que tu veux et pas la Beaujoire, pas Guingamp. Ok, ça marche.
C'est bon ça. Qu'est-ce que t'es susceptible là? Oh, Guillaume, on te fait des cadeaux, tu prends.
Vous l'avez battu, Nantes, prends celui de la Beaujoire.
Comme ça, tu pourras le démonter, qu'est-ce que je te dise moi.
C'était très très bien, la victoire contre Nantes 2-1, en plus le public était bien. Enfin voilà, ça fait du bien un petit peu au moral des Rennais. Ça
j'en avais besoin les Rennais.
Voilà, mais raccroche pas du coup, non mais sans rien, on va t'offrir un puzzle 3D stade. Merci de nous avoir appelé Guillaume
en tout cas.
Bonne soirée Guillaume, à très vite.
Salut tout le monde, ciao.
Voilà, à très vite Guillaume. Voilà, victoire donc de Rennes 2-0 face à Amiens. Un petit mot les gars, très rapide, sur l'une des autres affiches de cette 16e journée de Ligue 1. Lille a battu Toulouse 1-0. Alors Toulouse qui rate en plus le but égalisateur sur penalty en fin de match. Ouais. Alors un péno qui en plus. Bon, il n'est pas très clair, quoi.
Ouais, exactement. Il n'est pas très clair. Ça fait le petit cadeau parce que juste avant, ils hésitaient s'il y avait un pénalty ou pas. Donc, il en a profité l'arbitre. Il a dit,
deuxième victoire de suite pour Lille. Deuxième,
voilà.
Et Toulouse qui joue par contre.
Aller gagner à Lyon, surtout. C'était ça, Lille. Et après, à domicile, confirmé. Ça va faire du bien. Et moi, je me mets à la place des joueurs.
Lille galéré. Passe devant Toulouse. Hein.
En plus, qu'ils galéraient et que c'était dur, ils avaient le loco avec eux qui les attendaient à l'entraînement. Donc je peux te dire, arrive un moment, t'as la marre, t'es lessivé. Et là, deux victoires, pas d'El Loco à l'entraînement, ils doivent respirer, ils doivent se faire une pizza là ce soir, je te dis, même pas du côté de Lille, ça doit faire la fête.
Sixième match en victoire pour le TFC, on le disait, hein, Toulouse qui est barragiste, Lille est passé devant au classement. Vous pensez que Duprat peut être inquiété là?
Oui,
Ouais.
Inquiété par qui, par Sadran?
Elle pensait.
Bah ouais, c'est le président, non?
Non.
Bah, inquiété par qui, alors?
Pas qu'à un moment donné,
je pense que Sadran va le garder longtemps. Ça se passe très bien entre les deux.
Ouais.
Et je pense que Sadran...
Ce serait, une erreur à ce moment-là. Si ça continue dans cette situation-là, ce serait une erreur de la part de Sadran.
Oui, mais
même si ça se passe bien entre les deux.
Mais Sadran a vu qu'il avait fait... Non, mais Sadran a vu que Duprat avait fait du bon boulot par rapport à l'effectif qu'il avait. Le problème, moi, je trouve qu'ils ont... Ils ont vendu, c'est vrai, mais ils ont acheté...
Ils ont acheté beaucoup trop de joueurs offensifs.
Non, là où il ne fallait pas, au niveau d'équilibre.
Ils n'ont pas remplacé très gros.
Et j'aurais pensé qu'à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est Duprat qui a pris les décisions, je pensais vraiment que Duprat aurait été meilleur au niveau décision de l'effectif. Alors, je ne sais pas s'il a des blessés, s'il a des joueurs qui lui manquent, mais je pense vraiment qu'il aurait recruté et au niveau de l'équilibre de cette équipe. Je pense encore une fois que ce joueur-là qui lui manque avec tous les travailleurs qu'il a au milieu, comme Cahuzac, comme voit de moins en moins, est trop d'attaquants. Il aurait dû vraiment se cibler sur et mettre l'argent sur un joueur vraiment de plateforme au milieu qui peut lui faire un petit peu, tu vois, style Ferré, style
Héros.
C'est dommage.
Il est allé chercher Duprat pour sauver le TFC dans une mission qui paraissait impossible. C'est une mission que Duprat a réussi avec les joueurs.
Donc
qui
tu passes là, il a mérité un
essai maintenant, c'est bon. Ça. Là, qu'il garde Duprat avec un TFC qui est en train de couler, en tout cas pour l'instant, il est extrêmement mal en point. Je pense que ce serait de l'aveuglement, même si la relation est bonne entre ton entraîneur et toi. Rien ne t'empêche de à un moment donné de réagir en entrepreneur et de dire bon, je constate que ça ne va pas. Ça ne va pas entre sans doute le vestiaire et le coach. Le coach n'est pas dans le coup pour maintenir le TFC. Il faut se rendre à l'évidence. Là, c'est un Toulouse qui a perdu à domicile contre Nice, alors qu'ils tenaient le match, qu'ils étaient à 11 contre 10. Ils perdent ce soir contre un Lille qui, même sans Bielsa, est quand même convalescent.
Non, ils sont convalescents, Lille.
Ils viennent pas d'enchaîner de défaites contre Lyon ou Marseille.
Oui, tu veux rien rajouter?
Non, moi j'ai envie de vous dire, les gars, j'ai envie qu'on se fasse j'ai envie de faire une pause là. Faut qu'on fasse
parler d'autres choses.
Voilà, faut qu'on fasse une pause là entre nous, ça va plus.
Pas le tirage au sort.
Et j'ai envie qu'on voyage. J'ai envie de vous emmener en Espagne, en Angleterre.
Alors,
vous
voilà.
Vous dites ça ou pas?
Avec plaisir. Moi, tu m'emmènes où tu veux, mais t'arrêtes de m'introduire comme tout à l'heure.
Ouais. Alors, ça va. Les mecs, ils assument pas. Ça y est, dès qu'ils sont là, il y a plus personne.
T'as vu ce qui est
T'arrêtes de m'introduire.
Tu lui as dit, t'arrêtes de m'introduire.
Ouais. Chelou nos phrases ce soir, les gars. On vous attend. Au 32-16, on va filer en Espagne. Il y a eu des grosses affiches en première ligue. Il y avait un Arsenal Manchester United qui était sur SFR Sport. Franchement, je pense que c'était vraiment le match de la semaine. Mais un truc, mais deux fous furieux, deux tarés. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et François Manardo. Et vous également au 32-16. Chose première, chose due, on va filer en Espagne avant d'aller en Angleterre. Je vous donne les résultats de la 14e journée de Liga, ce qu'on connaît du moins. Malaga Levante 0-0, Barça Celta Vigo, 2 partout. L'Atlético de Madrid a battu la Real Sociedad 2-1. Séville s'est imposé 2-0 face au Deport. Bilbao au Real Madrid 0-0. Voilà pour les résultats.
Match terminé.
Oui, c'est terminé.
Ça y est.
Voilà, 0-0 entre l'Athletic Bilbao et le Real. Et c'est vrai qu'il y avait un coup à jouer pour le Real du coup, puisque le Barça avait fait match nul un peu plus tôt. Il y aura Leganés Villarreal, Retafe Valence, Eibar face à l'Espagnol, Las Palmas Betis et Girona face à Alaves. Le Barça est leader avec 5 points d'avance sur Valence. Valence qui doit encore jouer donc.
Qui peut gagner et revenir à 2 points.
Exactement.
Du Barça.
L'Atlético de Madrid est 3ème avec 30 points. Ils sont donc à 6 points pour l'instant du Barça. Le Real est 4ème avec 28 points. Derrière on a Séville et Villarreal. Qui dit Espagne dit
Ben Yedder, 6 buts en 6 matchs quand même.
Et dit Fred Hermel également.
Ah bon?
Ouais. Fredo, t'es là ou pas?
Moi, je suis arrivé avant Ben Yedder en Espagne. Hein. Et puis, il va repartir, je serai encore là. Hein.
C'est pas faux, effectivement.
Oh là, Ticos.
Ça va, Fredo?
Elle est pas belle, ma Liga, là? Ah, il s'en passe des trucs, hein.
Ah, c'est hyper serré, il y a du suspense.
Fredo, le Real n'en profite pas, donc.
Bah non, on n'en profite pas, le match vient de se terminer. C'est vrai que le Real a eu la balle. Le Real s'est créé des tonnes de situations dangereuses. Mais si on compte les occasions, vrai de vrai, il y en a une, 8e minute, contrôle de la poitrine de Benzema, reprise du gauche sur le poteau. C'est la seule vraie occasion qu'a eu le Real, qui a été supérieur, qui a de meilleurs joueurs que l'Athletic. L'Athletic qui était 16e au début de cette rencontre. Hein, donc c'est dire que c'est pas le Bilbao d'habitude. Et il y a quelque chose qui marche pas au Real. Et c'est pas une question d'attitude, parce que je peux vous assurer qu'ils se sont défoncés sur le terrain. C'est pas parfois des grandes équipes qui prennent un peu de haut, etc. Non, c'est surtout on fait pas ça.
Surtout
à Bilbao,
en ce moment.
Hein. Ouais. Surtout en ce moment, puis surtout à Bilbao, c'est quand même l'Athletic Club, c'est le seul club avec le Real et le Barça qui n'est jamais descendu en deuxième division. C'est l'une des des affiches de l'année, quoi. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Real. Le dernier Coudrin qui est pas là, Benzema est pas bien, Cristiano est pas bien du tout, Kroos a fait un match assez catastrophique, Modric est pas en forme, et puis Isco c'était le meilleur ces derniers temps, mais là il se regarde un petit peu trop jouer, le garçon, quoi. Il garde trop le ballon et ça se sent. Donc non, c'est pas génial, mais c'est pas fini, parce que comme le Barça...
Alors justement, parce que, enfin, ouais, tu l'as dit, tu l'as répété ici souvent, tu le disais, moi j'y crois encore malgré les 8 points de retard du Real sur le Barça. Enfin, là il y avait quand même un coup à jouer. Si ouais, à chaque fois qu'il y a une occasion, des mecs ils y vont pas, ça va être compliqué, non?
Bah, il y a une occasion l'an dernier, ils l'ont fait, hein, puisque c'était 10 points il y a 2 semaines, là. C'était 8 points la semaine dernière, puisque le Barça avait fait match nul à Valence et que le Real avait gagné face à Malaga. Mais c'est vrai que ce soir, c'était une occasion en or, dont a profité l'Atlético, qui lui est bien revenu à 6 points, notamment avec un but in extremis d'Antoine Griezmann, qui avait eu une...
Ça y est, libéré,
mauvaise passe. C'est, bah oui, pendant 8 matchs, il n'avait pas marqué. Et là, 3 matchs de suite, 1 de Ligue des Champions, 2 de Liga, il marque au moins un but. Donc, on a l'impression que c'est reparti du côté de Griezmann. Et puis on a une Liga très ouverte où tout le monde peut perdre des points, où tout le monde va perdre des points. Voilà, le Real qui perd des points à Bilbao, le Barça chez lui contre le Celta Vigo quand même, hein. Mm-hmm. C'est la première fois depuis un an, il me semble, que le Barça perd des points à domicile en Liga, hein, en championnat.
Ah, il y a 2-2.
Ouais, il y a 2-2, c'était un très beau match d'ailleurs, avec une mauvaise nouvelle pour le Barça et pour Umtiti, parce que le Français, qui était sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs du Barça, pas simplement défenseur, hein, l'un des meilleurs joueurs du Barça ces dernières semaines, Umtiti, qui s'est fait mettre dans le vent par Iago Aspas sur le deuxième but, le but égalisateur de cette équipe de Vigo, s'est claqué, déchirure musculaire derrière la cuisse droite. Et le Barça annonce 2 mois d'arrêt, donc ça va être une sacrée déchirure, ouais, quand même. Parce que 2 mois, c'est... Donc ça veut dire il jouera plus cette année, ça veut dire il sera pas là le 23 pour jouer où? À Bernabéu pour le Classico.
Dis-moi, Fred.
Il se passe plein de choses, hein.
Fred, concernant le Real Madrid, j'y reviens, désolé.
Oui, non, de toute façon, c'est un peu pourri. On mélange tout parce qu'il y a tellement d'équipes entremêlées que... Voilà.
Le retour de Gareth Bale, alors, est-ce qu'il ferait du bien à cette équipe
Ouais. Ce soir, je peux vous assurer que c'était un match pour Gareth Bale, parce qu'il y a eu des espaces à un moment. Mmh. Et le Real, il y a eu plein de contres. Et là, Gareth Bale, il est tellement rapide qu'il aurait fait du bien. Gareth Bale a fait un très bon retour après 2 mois d'arrêt en coupe l'autre jour. Il joue 20 minutes, enfin une demi-heure. Il fait une passe décisive sur le premier but, il provoque le deuxième. Et manque de bol, de nouveau, il joue 30 minutes. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, de nouveau, il a une petite contracture derrière le mollet, quoi. Il va reprendre l'entraînement la semaine prochaine, mais c'est désespérant, parce que c'est à chaque fois, oui, il revient, c'est pas mal ce qu'il fait, paf, il se fait.
C'est toujours
au même endroit. Là, on se demande quand il va revenir, mais est-ce qu'il va pas partir tout court du Real? Il y a tellement de rumeurs ces dernières semaines qui annoncent un départ à venir de Gareth Bale, je sais pas, on en est où là-dessus?
Non, mais ces rumeurs, les gens parlent d'un truc qu'ils connaissent pas.
Ouais. Voilà.
C'est-à-dire que les gens, les mecs qui crivent, disent des trucs. Non, le Real n'a pris aucune décision sur Gareth Bale.
Les gens croivent.
Parce que les gens, ils croivent. Voilà. Ils croivent. Puis tu sais, les gens, ils regardent trop Internet. Suivez Fred Hermel sur Twitter, vous saurez la vérité.
Voilà.
Non, mais suivez pas des pignoufs qui connaissent rien. Quoi. Suivez-moi, quoi. Enfin, c'est comme, par exemple, tu parles du Portugal. Tu suis qui? Tu suis Nico Villas, non?
Ouais.
Bah, oh, voilà, moi, tu sais, je suis un mec humble, je suis pas comme toi, j'ai pas le boulard, moi, Fredo.
Non, mais moi, je reste simple, t'inquiète pas. Non, mais sur Gareth Bale, alors, si Gareth Bale continue à avoir plein de blessures comme ça, en fin de saison, le Real Madrid va se poser la question. Sauf que là, on est au mois de décembre, et que Gareth Bale, peut-être qu'il va revenir là, et qu'il fait un super mondial des clubs, et qu'après, il enchaîne plein de matchs, quelle merveille d'avoir
Gareth
Bale.
Il a toujours le même problème, Fred? De blessures?
Mais il en a plusieurs, hein, mais
Il y en a plusieurs, ça compense, mais là, c'était le mollet.
Mais c'est lié. Non, mais c'est lié.
C'est lié.
Je pense que c'est lié parce que c'est les compensations, tu emploies le mot exact. Mmh. C'est-à-dire qu'il a un gros problème au mollet gauche.
Ah, voilà.
Alors, et donc, ça se ressent sur l'adducteur de l'autre côté du tuteur droit, enfin, tu vois.
Là, il doit forcer,
classique,
il
quoi, tu vois. Et on sent sur la pelouse qu'il n'est pas relâché.
Il n'est pas bien.
Tu vois, il y a certains gestes qui le retient. Et ça, quand tu retiens, tu te provoques des petites contractures. Mmh. Et c'est de nouveau ce qui s'est passé avec Bale.
Pour en revenir au Real, Fred, c'est vrai, quand on regarde froidement le classement et d'un point de vue purement statistique, alors, le Real est quatrième avec 28 points, c'est autant que Séville. On va y revenir sur Séville, notamment sur Ben Yedder. Ils ont que 8 victoires en 14 journées, ce qui est quand même pas énorme pour un club comme le Real Madrid.
25 de défaites.
Voilà, exactement, 4 nuls de défaite, 25 buts marqués, 11 buts encaissés. Ils ont la quatrième moins bonne différence de buts, même si elle est largement positive avec plus 14. Mais c'est vrai que c'est la troisième meilleure attaque seulement. On voit qu'il y a un truc qui déconne quand même dans cette équipe.
Bah oui, Cristiano marque pas et Benzema non plus. Donc
voilà. Mais il se passe quoi avec les deux alors, Fredo, là?
Pardon?
Il se passe quoi avec les deux alors, là?
Bah, les deux, ils s'entendent bien, ils travaillent. Il y a
pas, pas entre eux, mais globalement, voilà.
Non, mais globalement, mais ça rentre pas, quoi. Enfin, c'est. C'est-à-dire que le foot, c'est aussi. Et Ali le sait. Des fois, t'es tout réussi. Et comme l'a dit Zizou en conf de presse tout à l'heure, dit bah l'an dernier, on avait des matchs compliqués. On sait comment est la Liga. Et puis à la dernière minute, il y avait un but, notamment. Bon, je sais, moi qui le dis, mais un but de Ramos de la tête, un but même de Casemiro, etc. Sauf que ce but-là, il n'arrive pas, quoi. Ils ont été dominateurs il y a 15 jours lors du derby. Ils marquent pas. Ça fait 0-0. Ils ont été dominateurs ce soir à Bilbao. Ils marquent pas, ça fait 0-0. Donc voilà, c'est une mauvaise passe, mais je me dis que, enfin, vu la compétitivité de la Liga qui augmente chaque année, vu, et ça j'insiste, que tout le monde va perdre des points, le Barça par exemple se dépasse à Villarreal la semaine prochaine, le Real reçoit Séville, enfin non, mais il y a plein de, y a, tout le monde peut battre tout le monde, donc je pense qu'il faut pas enterrer le Real, même si ce soir c'est une occasion unique de revenir qui a été loupée, quoi.
Sur le coup de mood, Cristiano Ronaldo et Benzema, et Fred le sait, puis ceux qui me suivent sur Twitter aussi, moi je me déplace souvent à Séville depuis un an et demi, et on en parlait lors du match de Séville contre Liverpool, on en parlait avec les gens du club par rapport à l'état de forme du Real, et eux m'avançaient quand même un début d'explication, Fred, sur l'âge, tout simplement, qui est en train de rattraper un peu Cristiano Ronaldo, un peu Karim Benzema, ce qui expliquerait peut-être qu'il soit un peu moins fringant, même s'il peut y avoir des retours de forme, même si on sait très bien que le Real travaille dans la préparation pour être dans le money time, c'est-à-dire février,
notamment
mars,
Zidane,
avril.
Il a beaucoup ménagé Cristiano, chose que les autres n'arrivaient pas à faire.
Il y a peut-être aussi un début de coup de mou.
Attends, mais Cristiano,
je l'ai qualifié de vieux joueur, certainement pas.
Mais non, mais c'est pas un mec qui a 60 matchs dans l'année, dans les jambes.
Voilà.
Au niveau, donc on le voit sur la pointe de vitesse quand on est au stade, comme je dis, la plupart du temps le Real, en général, je le vois au stade, ben on voit qu'il manque cette petite explosivité. Mais rappelez-vous, on disait exactement la même chose il y a un an, et à partir du mois de février, il fait une fin de saison extraordinaire, et il met des pléiade de buts contre le Bayern, contre Naples, contre la Juve. Enfin voilà, quoi. Donc moi j'attends un petit peu avant d'enterrer Cristiano, mais surtout parce que c'est quelqu'un qui va avoir son pic de forme dans quelques semaines, quoi. Le problème, c'est que l'an dernier, il y avait des joueurs comme Morata, comme James Rodriguez, qui quand ils entraient faisaient la différence. Parce que c'était des bons remplaçants. Là, les remplaçants, et Cristiano l'a reconnu l'autre jour, ont un peu moins d'expérience. Borja Mayoral, il est très fort, sauf qu'il est encore très très jeune. D'ailleurs, la plupart des gens qui nous écoutent ne connaissent pas Borja Mayoral. Donc voilà, c'est lui le remplaçant
de
Benzema.
T'as pas d'attaquant d'expérience, en fait, sur le banc, t'as que des jeunes, c'est vrai qu'ils ont du talent.
Et là, Asensio s'est blessé.
C'est là qu'on se rend compte que ça suffit pas.
Ben non, ben là, c'est ça le truc. Donc on parle de plus en plus, et là, ce sont pas des rumeurs infondées. Parce que Zidane lui-même dit que pour l'instant, lui, il ferme pas la porte à la venue de certains joueurs au mercato d'hiver. Non, mais je pense que c'est plutôt devant, quoi. Voilà, il faut un bon remplaçant pour Benzema, quoi. Vous vous souvenez quand le Real avait engagé Chicharito, Javier Hernandez, qui avait notamment marqué un but décisif en quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético. Voilà, il faut un joueur comme ça qui soit pas un jeune joueur. Un joueur de, tu vois, 26, 27 ans.
Des Bayern, c'est le même délire, quoi.
Bah voilà, c'était le même truc, parce qu'à l'époque, on était venu parce que Higuain avait une hernie. Voilà, il faut un joueur comme ça, qui soit un joueur d'expérience, qui, un peu un renard des surfaces, quoi. Un type, voilà, qui, sur une demi-occasion, te met un but, quoi. Voilà, alors qu'il reste 30 secondes au temps additionnel. Voilà, c'est comme alors, ça. Mais après, je vous dis, c'est pas fini parce qu'on a, j'insiste, une Liga qui est complètement folle et il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, les blessures vont avoir un poids énorme, et je peux vous assurer que la blessure de Samuel Umtiti va être essentielle pour le FC Barcelone. Pour une autre très simple, c'est que Mascherano est blessé, que Vermeulen, il a joué un match, deux matchs maintenant, parce qu'il a joué à Valence l'autre jour avec le Barça.
Là, il a joué quoi, deux matchs en 4 ans, c'est ça?
Deux matchs de cette saison, un match de coupe et le match de toujours obligé à Valence parce que Piqué est suspendu, et Piqué a encore fait un match catastrophique, c'est lui le responsable du premier but du Celta de Vigo ce soir, donc il y aura des effets de cette blessure de Umtiti, qui était en train de devenir le patron de la défense et qui s'affichait comme l'un des trois meilleurs joueurs du Barça depuis des semaines. Vraiment, la dimension, parce que moi je l'ai vu arriver, je vois son évolution, waouh. Franchement, c'est dommage ce qui lui arrive là, parce que ça va freiner un petit peu un moment extraordinaire de sa carrière.
L'Atlético, Fredo, tu le disais tout à l'heure, ils reviennent à 6 points du Barça, ils sont à 1 point de Valence. Alors en attendant le match de Valence, hein, donc de demain, ils ont 2 points d'avance par contre sur le Real Madrid. Tu penses que l'Atlético est un outsider? Ça y est, ils se relancent aussi?
Ils se relancent. Bah, eux, ils ont profité d'occasion. Ils sont à 6 points. Et l'Atlético, à part en Ligue des Champions, ils n'ont pas perdu en cette saison. Et donc, ça a été un match compliqué aujourd'hui contre la Real Sociedad, qui a longtemps mené. Mais voilà, il y a ce petit but de Griezmann à la 87e qui est là, qui permet de prendre 3 points, qui fait que l'Atlético est bien là. Donc, il va falloir se battre jusqu'au bout. Je pense que celui de l'équipe qui sera championne, elle devra beaucoup souffrir et beaucoup batailler pour l'être. Ça sera pas un chemin de parsemé de roses, quoi, parce que l'Atlético, c'est pas très beau à voir, même si on sent quand même que Simeone, qui avait touché le fond contre Karabakh, avec ses deux matchs nuls en Ligue des Champions, qui ont quasiment condamné les Colchoneros, là, pour la qualification pour les huitièmes, il remet un peu de joueur offensif, quoi. Voilà, il relâche un peu, il lâche un peu la bride, et quand tu vois, par exemple, aujourd'hui, Gamero a été de nouveau titulaire, donc, enfin, Griezmann, enfin, de nouveau, Griezmann retrouve un numéro 9 de référence devant lui. On sait que Griezmann, il a besoin de liberté derrière un attaquant. Et ça se voit en équipe de France avec Giroud, par exemple. Et donc, le meilleur Griezmann, on le voit quand il n'est pas isolé loin d'un milieu de terrain qui, quand il a une 3 milieux défensifs, solo, on peut pas dire qu'Antoine, il est beaucoup de bon ballon, quoi. Donc, voilà, je vais avoir peur de me contredire toute la saison en vous parlant de samedi soir, parce que je pense qu'il n'y a aucune certitude cette saison sur aucune des équipes, et qu'il y aura des bouleversements tous les week-ends.
Puis c'est ce qu'on aime, Fred, pour nous parler de Ben Yedder.
Ben oui.
Il est pleinement avec Séville, il est encore marqué ce soir.
J'aimerais entendre Fred, vraiment, puisque t'es
victoire 2-0 face au Dépôt.
Il en est où? Comment il est? Comment il enchaîne les matchs?
Il est titulaire.
Mais comment il est? C'est quoi son niveau? C'est ça que je voudrais savoir.
C'est la base qu'il avait quand il était en France, sauf que quand il était à Toulouse, sauf qu'il joue dans la meilleure Liga du monde, qu'il joue dans une très bonne équipe, où il a eu quelques difficultés au début, mais pourtant il y a un changement d'entraîneur, et pourtant il augmente son niveau, plus s'intègre dans la Liga, plus s'intègre dans cette équipe de Séville, plus monte son niveau. Alors parfois on le voyait manquer parfois un petit peu la manquable, là il est de plus en plus efficace, même si l'autre jour en Ligue des Champions par exemple, en fait il a un bon mental, parce que à 0-0 il a une balle de but tout seul devant le gardien, il la manque. Après Liverpool mène 3-0, mais Ben Yedder, il s'écrase pas, il s'inquiète pas, et il met un doublé, et finalement Séville fait 3-3.
5 buts en 3 matchs, hein, pour Ben Yedder.
Ouais, donc c'est quelqu'un qui a, il sait qu'il a la confiance de son coach. Un petit mot sur le coach d'ailleurs, qui a été opéré il y a quelques jours d'un cancer.
Vas-y, pour finir, Fredo.
El Toto Berizzo, ouais. Donc bien entendu,
il y a eu beaucoup de messages de soutien d'ailleurs.
Ouais, ouais, donc ouais, la Liga est vraiment derrière, effectivement, avec l'Argentin. Et donc on se trouve aujourd'hui avec un Séville qui va être là aussi, parce qu'il est juste derrière le Real, donc on a 5 équipes. Séville était un petit peu loin pour la Liga, mais pour le titre, mais en tout cas pour les,
ils sont
pour
les 4 premières
places, on reparle de Clément Langlais aussi bientôt.
Ouais, on le fera. Merci mon Fredo, faut qu'on file.
Un petit mot sur Clément Langlais, il est adoré à Séville. J'étais à un mariage l'autre jour, il y avait le président de Séville qui m'a dit c'est le joueur parfait, il va marquer une époque à Séville.
Mais il parlait de toi, je crois. Il parlait de toi, je crois, Fredo.
Non, mais moi je suis pas bien
pour te marier, pour te marier à sa fille.
Merci Fredo d'avoir été avec nous. À très vite,
mon Fredo.
Merci. Bonne soirée, Fredo. Dans quelques instants, on sera en Angleterre avec Philippe Auclair, parce que là aussi, il y a eu du spectacle. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia et François Manardo, on était en Espagne il y a quelques instants pour la Liga. Il y avait aujourd'hui la suite de la 15e journée de Première Ligue. Le début même d'ailleurs, et la suite aussi de la première journée, de la 15e journée de Première Ligue. Chelsea a battu Newcastle 3-1. Stoke a battu Swansea 2-1. Partout entre Watford et Tottenham. West Brom Palace 0-0. Leicester a battu Burnley 1-0. Everton, c'est la première de Sam Allardyce sur le banc des Toffees, a battu Huddersfield 2-0. Liverpool a cartonné Brighton 5-1. Et victoire de Manchester United face à Arsenal 3-1, on va y revenir dans quelques instants. Demain, il y aura sur SFR Sport à 14h30, Bournemouth Southampton, et à 17h, Manchester City West Ham. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe.
Salut Nico, salut François, salut Ali.
Ciao
Philippe. Alors Philippe, Quel match entre Arsenal et Manchester United. Victoire 3-1 des Red Devils avec un grand Pogba, avec un grand Martial également. Mais alors, quelle intensité, quel match.
De Réa, oui.
Aussi.
Un immense De Réa. Je pense l'homme du match, hein, bon, qui égale le record du nombre de parades dans un match de Premier League.
Ah ouais, carrément.
Ah oui, carrément, 14. Et des parades de quelques-unes de très très grande classe, notamment sur ce qui aurait pu être un CSC de Romelu Lukaku et un double arrêt invraisemblable sur Lacazette et Alexis. Non, mais un match qui a été joué à 100 à l'heure avec deux équipes qui ont produit énormément en allant de l'avant. Manchester United bien évidemment plutôt en contre, mais que j'ai trouvé très entreprenant dans l'entame de match. Et puis Arsenal, qui n'a certainement pas démérité, a d'ailleurs quitté la pelouse de l'Emirates. Nico, c'est assez étonnant, mais sous les vivas et les applaudissements de son public, qui sont très difficiles. Ouais. Mais le public s'est tout simplement rendu compte qu'ils avaient assisté à un match exceptionnel, comme on en vit pas beaucoup pendant une saison, et que même s'il y avait beaucoup beaucoup de choses dont tu pourrais discuter, les pénaltys non donnés, les cartons rouges donnés ou pas donnés, etc. Bon, c'est pas un scandale que Manchester United soit reparti avec 3 points. Les buts étaient de très très grande qualité, et Arsenal a des problèmes défensifs, c'est pas nouveau, mais au moins ils ont montré beaucoup d'allant, beaucoup d'enthousiasme. Mais tout comme Manchester United, hein, tu sais que Mourinho, son bilan contre les équipes du top 6 en déplacement était catastrophique, il n'y a pas l'autre mot.
Mais il aime bien Wenger quand même. Hein.
Il aime bien Wenger, oui, c'est vrai. que quand tu regardes le bilan entre ces deux entraîneurs, il est très très largement en faveur du Portugais. Mais ça faisait, bon, sur les 10 derniers matchs qu'ils avaient joués contre des équipes du top 6, hors de soit Stamford Bridge quand il était à Chelsea ou à Old Trafford quand il était à Manchester United, Mourinho n'avait pas gagné un seul. Il en avait perdu 5. Ils avaient marqué un seul but à l'extérieur lors des 9 derniers matchs. Donc alors, tu vois, ça fait beaucoup de choses, hein. Et tout d'un coup, ils se sont réveillés au bon moment. On a vu une équipe, je te dis, Manchester United très très entreprenante dans le pressing. Ça a posé de gros problèmes à la défense des Gunners, qui en plus ont resté sur une série de 12 matchs, de 12 victoires consécutives à l'Emirates. Donc c'est quand même, c'est pour ça qu'on y a cru un petit peu jusqu'au dernier moment. J'allais dire pour Arsenal, presque jusqu'au dernier moment. Y compris après l'expulsion de Paul Pogba, qui, comme vous pouvez l'imaginer, fait beaucoup beaucoup parler.
Alors il sera suspendu
Angleterre.
Lors du derby.
Oui,
on va revenir face à
3 matchs. Oui.
Voilà, elle fait beaucoup parler. Pourquoi il l'a jugé mérité?
Non. Mais elle fait beaucoup parler parce qu'il n'y a pas seulement que l'expulsion, il y a aussi des applaudissements de Pogba quand il reçoit le carton rouge, et ça va lui coûter chaud également.
Effectivement. Parce que mauvais goût en plus.
Le carton rouge, il est mérité.
Le carton rouge, je pense qu'il n'y a pas trop photo sur ce carton rouge.
Et en plus, j'allais te dire, Philippe, on l'a vraiment senti dans le jeu de Manchester United quand il n'était pas là. On sait que United a beaucoup galéré sans lui. Là, depuis qu'il est de retour, ça va beaucoup mieux. Ce derby qui sera très important, puisque là pour l'instant United est à 5 points de City en attendant le match de City demain contre West Ham. Mais c'est vrai que sans lui, on a l'impression que c'est quand même un autre Manchester.
C'est complètement différent, pas en phase défensive, ça défend très bien sans lui. Et en fait, Pogba, c'est pas dans les phases défensives qu'il apporte nécessairement le plus. Je dirais même qu'il n'a pas été formidable dans ce domaine aujourd'hui. Par contre, quand Manchester United a la possession du ballon, et surtout dans les transitions, il est absolument énorme. Et il l'est depuis son retour de blessure. Je trouve que il a livré quelques-uns de ses meilleurs matchs, je dirais, non seulement sous le maillot de Manchester United, mais également, j'ajouterais, sous le maillot de la Juve. Il est franchement, depuis qu'il est revenu de cette blessure, de cette longue blessure, il montre le meilleur Pogba. Il a également un peu épuré son jeu. On voit moins ses dribbles de trop qu'on voyait en particulier en Serie A et au début de sa carrière à Manchester United. Tu vois la façon dont il intervient dont il donne ce ballon de but à Jesse Lingard en balayant Laurent Koscielny comme si c'était une feuille morte sur son chemin. C'était du grand Pogba qu'on a vu dans les phases offensives, et c'est évident qu'il va énormément manquer contre Manchester City. Comment veux-tu qu'il ne manque pas? On a vu quand Manchester United a fait sans lui pendant un bout de temps contre des équipes qui étaient peut-être pas tout à fait du même niveau, hein. Ils avaient gagné contre Palace, je crois, 4-0 et quelques autres succès de ce type-là, mais contre des équipes du haut du panier, comme c'est le cas pour Arsenal et surtout pour Manchester City, évident qu'il va manquer. Mais cela dit, même si jamais il n'y a pas volonté de blesser Hector Bellerin, eh ben il se laisse aller un petit peu trop, dirons-nous, avec un peu trop d'enthousiasme, et il met les crampons, et on a eu très très peur pour Bellerin. Hein. Quand on a revu les images, tout le monde s'est voilé les yeux.
Philippe, oui. Pour reparler de Pogba, en fait, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi demander autant de ballons, mais dans les 30 dans les 30 derniers mètres. Pourquoi? Parce que je sens que physiquement, il est plus léger. dans le sens où je le trouve se déplace plus facilement sur le terrain qu'avant. On aurait dit qu'il traînait, si tu veux, son corps, même s'il avait une bonne technique. Et c'est pour ça que ça lui permettait permettait surtout de faire des transversales. Bah, là, non.
Matic bosse pour deux, quoi, au milieu, derrière.
Matic bosse pour deux, mais d'ailleurs, Matic, il est claqué, hein, il est crevé.
Ah, oui, mais ça suffit.
À mon avis, il va pas jouer en Ligue des Champions cette semaine, Matic. Hein, il va être mis au frais dans du coton en attendant Manchester City. Ce que je te dirais, Ali, je suis d'accord avec toi sur une chose. C'est le fait que quand il est arrivé à Manchester United, il a immédiatement commencé à jouer sans avoir eu de véritable préparation. Première chose. Et ensuite, il a joué énormément lors de sa première saison, notamment, je crois, 15 matchs de Ligue Europa, où Manchester United est allé jusqu'au bout. Il a donc terminé sur les rotules sans jamais avoir été au top physiquement. Cette fois-ci, il a eu une pré-saison correcte, qui en plus de ça, un début de saison écourté par cette blessure, et cette blessure, d'une certaine manière, lui a bénéficié. Il est aujourd'hui physiquement au top du top. Et je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il se déplace mieux.
Ah oui, c'est sûr.
Il est plus en confiance, il y a plus d'équilibre, il y a plus de vivacité également dans les gestes, et je trouve qu'il y a également plus de jugement dans la façon dont il utilise le ballon. Alors, je dis ça le jour où il prend un carton rouge pour un geste complètement débile, mais bon, que veux-tu, c'est ainsi. C'est quelque chose qu'il va falloir aussi, il va falloir qu'il progresse à ce niveau-là.
Peut-être qu'il se laisse emporter aussi par sa fougue, parce que quand tu le regardes de près, moi j'ai eu la chance de le voir de très très près, justement sur le parcours en Europa League quand ils ont joué contre Celta Vigo la demi-finale, il te dégage une impression, ce gamin, Superman.
Il est un joueur hors norme.
Il est tout fait au niveau technique,
athlétique,
mais
Superman, c'est-à-dire que
il a de la vision.
Te dis, ce que Philippe a dit, moi je bois ses paroles par rapport à plus de simplicité dans son jeu. Mais si effectivement il a gagné en simplicité et en se débarrassant des artefacts, des artifices un peu techniques qu'il nous gratifiait et qui compliquaient de trop loin, de trop son jeu. Là, physiquement et techniquement, c'est un monstre.
Tiens, prenons
dans le bon sens du terme.
Prenons l'avis d'Aboudé qui nous a appelé au 32-16, supporter de United. Salut Aboudé.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Allez, bonsoir Aboudé.
Alors, quel est ton avis sur Pogba? Tiens, alors sur son rouge, il a fait un match énorme là, on le disait face à Arsenal. Là, c'est vrai qu'il prend un carton jaune qui le pénalise lui, mais qui pénalise son équipe aussi, non Aboudé?
Oui, bien sûr. Franchement, moi, pour tout vous dire, bon, il a fait un très grand match. Hein. Aujourd'hui, Le rouge est, je pense, sévère parce que la volonté
sévère.
De faire mal n'est pas là.
Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas la volonté de faire mal à Boudet, mais quand tu dois punir le geste, même s'il n'y a pas la volonté de faire mal, heureusement que les joueurs ne veulent pas tous se faire mal.
Je vous apprends rien en vous disant qu'en Angleterre, bon, voilà, on y va, quoi, donc. Et voilà, je pense que l'arbitre aurait pu, enfin pour un choc comme ça, il aurait peut-être un peu tempéré son jugement, mais bon, le carton était sorti. Mais plus globalement, depuis son retour, je le trouve énorme, moi. Franchement, je pense qu'il a un peu plus épuré son jeu, il est un peu plus décisif, je trouve, qu'il y a quelques mois, donc non, franchement, très bon.
Vous avez vu quand il est venu?
Ah, c'est incroyable.
Koscielny, il a eu un match pénible, hein, parce que la passe, moi le geste que je trouve le plus incroyable, c'est la passe de Martial, non? L'extérieur du pied, mais c'est extraordinaire. Non,
comment il se retourne et qu'il fait le toucher.
Non, mais à l'aveugle, il le sent.
C'est ça qui est magnifique.
Il le sent, c'est Lingard qui marche.
C'est Lingard, oui.
C'est la façon dont il pivote.
On dirait du Benarbia.
C'est élégant.
J'aurais fait Exter Pigot.
C'était pas un pied, c'était une main avec un gant de soie.
C'est magnifique parce qu'il
danse. Un gant de soie, exactement.
Ouais. Il danse autour du défenseur et il lui caresse juste le petit Exter comme un peu un torero, tu vois. Doucement. Et hop, il l'a lui dépose.
Aboudé.
Mais il y a eu, tu sais, pardon, excuse-moi, mais justement, pendant qu'Aboudé est là, parce qu'on parle de Paul Pogba, on parle beaucoup de Paul Pogba, et c'est normal, mais il y a d'autres joueurs de Manchester.
Il est bien, Martial.
Il y a d'autres joueurs. Anthony Martial, il fait une très belle entame de match. Romelu Lukaku ne marque pas, mais fait un match énorme.
Et Lingard.
Il y a quand même un problème au niveau stade face au gros.
Et Lingard également. Lingard qui marque un doublé, et tu dis qu'on n'a plus qu'une 30. Ah bah, c'est bien dommage parce qu'il y avait tellement de choses à raconter.
Il y a notamment Tottenham, mais note-le. Alors ça, faut vraiment que tu te le notes pour la semaine, Philippe, mais faut vraiment que tu nous parles de Tottenham parce qu'ils sont dans une phase qui est compliquée. Troisième
Pas critique, mais compliqué. Ils sont là où on s'y attendait en championnat. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est aussi l'effet Ligue des Champions. Tu bats le Real, tu fais match nul au Bernabeu, tu bats deux fois le Borussia Dortmund, tu termines premier de ton groupe. T'as un effectif encore très jeune et pas énormément étoffé.
Tu le payes.
Tu la payes cash même.
Aboudé, pour finir, t'y crois, toi, à la Première Ligue cette saison pour United ou pas? C'est chaud,
ah,
quand
moi,
même.
J'y crois quand même. Moi, ah ouais, ça va être dur, mais
je laisse pense tomber, Aboudé, enfin, laisse tomber Manchester City, non, c'est fini. Mais,
vous savez, c'est le Boxing Day, c'est là que tout se joue, donc bon, comme c'est dans quelques
semaines. On vous fera des cadeaux pour le Boxing
Aboudé,
Day.
Aboudé, t'es abonné à SFR Sport ou pas?
Ah, bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
T'es un bon gars, ça. C'est pour ça qu'on
Aboudé, depuis la première heure. Moi, donc,
t'es Aboudé.
Bon, messieurs, merci. Merci, Aboudé. Merci de nous avoir appelés.
Merci à tous.
Ciao, Aboudé.
Bonne soirée. À bientôt, Aboudé. Philippe, merci.
À très vite, les amis.
Et promis, tu nous parles de Tottenham cette semaine.
Oui, oui, on reviendra sur Tottenham, absolument. Dès le grand after de lundi soir.
Eh ben, parfait. Ce sera, on sera là.
Et le Leicester de Claude Puel qui a de nouveau gagné.
Et qui a battu Burnley, qui était sur une super dynamique.
Exactement.
Fait que des bons résultats. Attention à notre ami Claude Puel. Il va être content, Southampton.
Merci Philippe.
Allez, ciao les gars.
Ciao, ciao,
merci Ali Benarbia.
Ciao, ciao.
Merci
ciao,
François Malardo. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes techniques.
Merci voilà, à Jérôme Thomas.
Voilà, Cyprien Bétout, à Jérôme Thomas également. Merci.
Quel
merci
labo, Jérôme.
Voilà. Là, on peut le dire. Quel labo.
On peut le dire, ouais.
Ciao, ciao. Allez, salut.
Hashtag la Bretagne.
RMC, le super football show, l'after foot.